France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Victor Bout, le marchand de mort. Au mois de décembre 2022, le tarmac d'un aéroport du Moyen-Orient est le théâtre d'un épisode digne de la guerre froide. Au milieu des jets privés et d'agents armés, deux prisonniers sont échangés. Filmée par une caméra, la scène fait le soir même l'ouverture des journaux télévisés dans le monde entier. Et pour cause. Sur ces images, on aperçoit un homme d'une cinquantaine d'années, considéré comme le plus sulfureux marchand d'armes de la planète, Victor Bout. Pendant près de deux décennies, des conflits ethniques en Afrique jusqu'aux zones de rébellion d'Amérique du Sud ou d'Asie du Sud-Est, Bout fut l'homme qui fournissait toutes les armées du monde, à l'exception de l'armée du salut, rappellent ONG et journalistes. Grâce à sa flotte d'avions cargo et ses nombreux navires, Bout a livré des centaines de tonnes d'armes et de matériel militaire. Parmi ses clients, on compte des dictateurs et des chefs de guerre, parmi les moins recommandables de la planète. On trouve aussi l'ONU et certaines démocraties occidentales, autrement dit, tout le monde. Notre invité aujourd'hui, Romain Mielcarec, journaliste indépendant, spécialisé dans les questions de défense et les relations internationales. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont le dernier, intitulé « Les Moudjiks, la France dans les griffes des espions russes », est paru aux éditions de Noël en 2022. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Adrien Cara, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Chers compatriotes, chers concitoyens, vu la situation qui s'est créée avec la fondation de la communauté des États indépendants, j'arrête mes activités en tant que président de l'Union soviétique.
Mercredi 25 décembre 1991, Moscou. L'horloge sonne 18h, lorsque le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, apparaît à la télé. Assis dans un coin de salle du Kremlin, le visage grave, il prononce l'oraison funèbre de l'URSS. Rien de moins. À Paris, Washington et Londres, diplomates et observateurs font part de leurs inquiétudes. Parce que, que va-t-il advenir des gigantesques stocks d'armes dont dispose encore l'armée rouge? Pire, existe-t-il un risque de prolifération nucléaire? Face aux craintes des Occidentaux, le président de la jeune fédération de Russie, Boris Eltsine, obtient le rapatriement du matériel nucléaire militaire, autrement dit missiles balistiques, avions bombardiers, sous-marins, jusqu'ici disséminés dans tout le bloc de l'Est. Pour le reste, la quinzaine de pays nouvellement indépendants, tels que l'Ukraine, l'Arménie ou encore le Kazakhstan, devront se débrouiller par eux-mêmes pour assurer la sécurité et l'entretien des bases militaires sur leur territoire. C'est en vérité le début d'une pagaille administrative hors norme. Comme l'explique M. X dans l'émission de Patrick Penaud sur France Inter, la fin de l'URSS contribue à la création d'un immense marché noir.
L'effondrement de l'Empire va se traduire aussi par un démembrement du pacte de Varsovie.
Oui, le pacte militaire entre les démocraties populaires.
Conséquence, les arsenaux qui existent dans tous ces pays, mais aussi dans les républiques de l'ex-URSS, qui vont voler de leurs propres ailes, seront démantelés.
Oui, on pourra se procurer des armes à des prix défiant toute concurrence.
C'est ça. On verra même des militaires vendre des armements pour leur propre compte.
Au total, des dizaines d'avions de transport militaire, des centaines de chars et de véhicules blindés et plusieurs dizaines de milliers de kalachnikovs se retrouvent vendus au plus offrant. C'est dans ce contexte qu'un ancien officier de l'armée rouge fait une reconversion fulgurante. En l'espace de quelques mois, cet homme acquiert une flotte d'avions cargo et se lance dans le fret aérien. Cet homme s'appelle Victor Bout, il a 23 ans à peine. Son histoire s'écrit en pointillé entre réalité et légende. Les informations sur son parcours sont rares, autant qu'elles sont soumises à de nombreuses remises en question. D'après son passeport russe officiel, Viktor Anatolievitch Bout est né en janvier 1967. Toujours selon ce document, il est originaire du Tadjikistan, une petite république soviétique frontalière de la Chine. Des informations que le principal intéressé va nier plus tard lors d'une interview donnée à une radio moscovite. Quoi qu'il en soit, dès le départ, la carrière de Boot flirte de très près avec celle des services de renseignement soviétiques. Tantôt présenté comme un officier de l'armée de l'air, tantôt comme un interprète parlant plusieurs langues, parfois même comme un brillant étudiant diplômé en sociologie, Boot est une sorte de chimère avec deux dénominateurs communs, le KGB, les services secrets soviétiques, et le GRU, GRU, le service de renseignement de l'armée rouge. Plusieurs services secrets occidentaux attribuent d'ailleurs au premier, le KGB, le financement de la première compagnie aérienne privée de transport de Victor Boot. Cette entreprise, discrètement enregistrée dans un pays d'Europe de l'Est, est une façade à travers laquelle Boot gère en réalité une multitude de plus petites compagnies aériennes, toutes spécialisées dans le fret de cargo. Comme l'explique le journaliste Laurent Léger, c'est le point de départ d'une formidable carrière qui va faire de cet homme d'affaires un marchand d'armes de haut vol.
On pourrait parler de pub des trafics d'armes, effectivement, puisqu'il a commencé juste petit transporteur, et puis aujourd'hui, il termine en louant ses avions au Pentagone et au ministère de la Défense de plusieurs pays européens.
C'est dans les arsenaux abandonnés de l'ex-URSS que Victor Boot se fournit en matériel et en équipement militaire en tout genre. Grâce à sa flotte d'avions géants, Antonov, Boot se pose presque partout, il y a une piste d'aviation et s'il n'y en a pas, qu'à cela ne tienne, il en fait aménager une. Lorsqu'il voyage, Boot transporte des valises entières remplies de dollars. De l'argent avec lequel il achète à un prix dérisoire, armes, munitions et surtout le silence et la bienveillance des autorités locales. Par ici la bonne affaire. Ensuite, une fois qu'il a acquis une cargaison d'armes, Boot met en place leur transfert chez ses clients. Ces avions partent ainsi en direction de l'Afrique, de l'Asie ou de l'Amérique latine, des destinations souvent placées sous embargo pour l'achat ou la vente d'armes par l'ONU et des gouvernements autoritaires, seigneurs de guerre ou encore dictateurs, payent des fortunes pour s'équiper en matériel de guerre. On le sait, l'argent des armes n'a pas d'odeur. Au plus fort de son activité, Victor Boot compte une dizaine de compagnies aériennes, une cinquantaine d'avions cargo et des dizaines de navires. Il est capable de tout transporter en un temps record. Du simple fusil mitrailleur au véhicule blindé, en passant même par des hélicoptères de combat. D'après le travail de plusieurs historiens, il n'y a rien de surprenant à ce que Boot ait pu corrompre tous les échelons de commandement locaux pour s'accaparer illégalement des tonnes d'armes. Mais c'est là où l'histoire prend toute sa dimension. Ces mêmes historiens s'accordent aussi sur le fait que, sans l'accord, l'aval ou l'appui du KGB, il aurait été impossible pour Victor Boot de faire son commerce dans les anciennes républiques socialistes. Alors, simple marchand d'armes et business sans éthique, ou individu en lien avec les services secrets russes, ce qui peut revenir au même. Quoi qu'il en soit, notre homme compte aussi de nombreux clients dans les démocraties occidentales, mais oui, et en particulier en France.
Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Nous avons regardé ensemble les reportages de nos envoyés spéciaux au Rwanda. Je vous demanderai d'abord évidemment de nous dire comment vous jugez le début de cette opération turquoise. Se déroule-t-elle comme vous le souhaitez et est-elle à votre avis aujourd'hui un peu mieux comprise?
Pourquoi avons-nous décidé cette opération au Rwanda? Parce que le monde entier et la France entière ont été émus, bouleversés par les images que nous avons vues. Et il nous a semblé que le gouvernement de la France ne pouvait pas rester indifférent ni immobile. Et qu'il fallait donc que la France, avec d'autres, organise une opération internationale humanitaire.
Mercredi 22 juin 1994, base aérienne d'Istres. À proximité de la piste d'envol, plusieurs dizaines de véhicules militaires sont chargés dans la soute d'avions cargo géants. Destination Goma, dans l'est du Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo, à proximité de la frontière avec le Rwanda. Un endroit choisi par l'état-major pour être la base logistique de l'opération turquoise. La veille, c'est le président de la République, François Mitterrand, qui a donné l'ordre de lancer cette intervention militaro-humanitaire de grande ampleur. Au total, 2550 soldats français doivent être déployés au Rwanda afin de faire appliquer la résolution 929 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Objectif, mettre fin au massacre ethnique et protéger la population civile. Seulement voilà, Face à l'urgence de la situation, la France ne dispose d'aucun avion capable de mettre en place un pont aérien entre l'Europe et l'Afrique. L'état-major fait alors appel à l'un de ses sous-traitants, un individu au parcours assez trouble, Michel-Victor Thomas. En moins de 24 heures, grâce à ses contacts, Thomas réussit à trouver des avions cargo pour assurer les premières rotations entre la France et le Zaïre. Les deux premiers appareils se posent en pleine nuit à Istres et l'opération de chargement commence. Sur le tarmac, face à la caméra de France 2, le commandant de la base, le colonel Touvérez, donne des précisions.
Nous utilisons pour cette opération des avions Antonov qui sont derrière nous, des gros porteurs qui sont loués à des sociétés russes et qui offrent l'intérêt considérable de pouvoir emporter environ 100 tonnes à chaque fois. Ce qui nous évite d'employer beaucoup d'avions de plus petit tonnage. D'Istres sont partis 700 personnes et 700 tonnes de matériel à l'heure qu'il est. Matériel à la fois humanitaire d'un côté, hôpitaux, médecins, et puis matériel de protection pour tous ces hôpitaux et ces médecins.
Derrière le colonel Touvrez, on aperçoit deux Antonov 124. Les avions blancs et gris qui portent encore bande bleue et logo de leur ancien propriétaire, la compagnie soviétique Aeroflot. En 1994, l'Antonov 124 est l'avion cargo de série le plus grand du monde. Il est capable d'embarquer davantage de fret qu'un Boeing 747, c'est dire. Autre particularité, le nez de l'Antonov s'ouvre vers le haut et permet ainsi de charger des chars d'assaut, des semi-remorques ou des hélicoptères. Au total, une dizaine d'appareils de ce type sont mobilisés lors de l'opération turquoise. Ils effectuent plus d'une centaine de rotations entre les aéroports d'Istres, de Nantes, de Lyon, de Roissy et du Zaïre. Lors de la mission d'information parlementaire sur l'opération menée par la France au Rwanda, 4 ans plus tard, les responsables de l'état-major ne donnent aucune information sur l'origine de ces avions. Mais interviewé par le journaliste Laurent Léger, Michel-Victor Thomas, l'intermédiaire donc, fait des révélations embarrassantes. Il explique en effet que les généraux français lui ont donné carte blanche pour faire au plus vite. Il a donc fait appel au seul homme qui soit capable de mettre à disposition des avions cargo géants sans paiement d'acompte et en moins de 24 heures, Victor Bout. À la fin des années 90, on sait très peu de choses sur ce Victor Bout. Si ce n'est que sa flotte d'avions aurait été utilisée par l'ONU lors de l'envoi de casques bleus en Somalie pour l'opération Restore Hope en 1993. Une chose est certaine, l'individu est considéré comme l'un des acteurs les plus efficaces du métier de marchand d'armes. Et pour cause, il ne pose aucune question, ni ne s'embarrasse d'aucune formalité douanière. Bout réceptionne, transporte et livre partout dans le monde, quel que soit son client, du chef de guerre africain à un prestataire de l'ONU, en passant même par l'organisateur d'une course de rallye raid. Oui, souvenez-vous de cette incroyable séquence du mois de janvier 2000 sur le Paris-Dakar.
Suite à l'annonce d'un risque terroriste extérieur avéré encouru sur le Dakar, sur le territoire du Niger, TSO a reçu de la part des autorités nigériennes toutes les assurances de collaboration et de protection. Cependant, la sécurité des personnes constituant la priorité absolue, les organisateurs, suite aux informations reçues des ministères français des Affaires étrangères et de la Défense, ont pris la décision de mettre en place un pont aérien pour transporter l'ensemble des personnes et du matériel du Dakar entre Niamey et les aéroports de Sabah et de Ouel Kébir en Libye.
Mardi 11 janvier 2000, lors d'une conférence de presse improvisée, Hubert Auriol, le directeur du Dakar, que vous venez d'entendre, annonce que l'épreuve est stoppée à cause d'une menace terroriste. Afin de la reprendre, les organisateurs mettent en place un pont aérien pour transporter l'ensemble des concurrents, leurs véhicules et le parc d'assistance. Au total, 1500 personnes, 200 voitures, 140 camions, 150 motos et 6 hélicoptères. Le matériel fait le trajet dans la soute d'avions cargo entre Niamey et Sabah, autrement dit 2000 km. Coût de l'opération, à un peu plus de 5 millions d'euros, en partie couvert par les sponsors et les compagnies d'assurance. Interrogé sur France 3, Hubert Auriol donne des précisions sur cette opération exceptionnelle.
Hubert Auriol, comment avez-vous réussi à trouver en aussi peu de temps des avions géants, russes je crois, pour transporter une telle caravane comme le Dakar ?
Vous savez, on a dans TSO, c'est une équipe, on a des gens qui sont des spécialistes de la logistique.
À partir du moment où c'est vrai, où on a décidé, on a pris cette décision, c'est-à-dire hier soir, il y a 24 heures maintenant, il a fallu réfléchir à la possibilité de le faire. Ça a été assez compliqué. En même temps, nous avons des contacts réguliers avec des gens qui, des affréteurs d'avions, avec des gens qui louent des avions, surtout des avions cargo, des gros porteurs. Nous avons déjà utilisé un avion de ce type pour redescendre tous les hélicoptères à Dakar pour le départ du rallye. Donc nous avons repris contact avec eux et nous avons réussi dans l'après-midi à boucler l'opération pour espérer pouvoir la démarrer demain matin. Et cette opération devrait durer jusqu'à dimanche 16 au soir, ce qui devrait nous permettre de relancer la course lundi 17 de Libye sur le parcours initialement prévu.
Parmi la dizaine d'avions cargo qui débarquent à Niamey, on aperçoit des Antonov 124, le même type d'appareil qui a servi dans le cadre de l'opération Turquoise. Tiens donc. À cela s'ajoutent d'autres avions de transport plus petits, mais qui ont tous un point commun. Ils ont encore sur leur dérive l'étoile rouge et le logo d'Aeroflot. Tiens donc. Et leurs pilotes sont russes, kazakhs, biélorusses ou encore ukrainiens. On leur a compris, en toile de fond, c'est bien Victor Bout qui tire les ficelles de ce manège logistique. Et c'est lui aussi qui encaisse le chèque des organisateurs du Dakar. Homme du dernier recours, Bout apparaît encore une fois comme un intermédiaire indispensable. Une efficacité et une souplesse d'utilisation qui vont bientôt taper dans l'œil du Pentagone et de certaines entreprises du complexe militaro-industriel américain. C'est ainsi qu'au tournant des années 2000, Victor Bout, l'homme dont le passé trouble flirte avec le KGB, devient le transporteur officiel de l'effort de guerre des États-Unis dans le cadre de l'opération militaire en Afghanistan, puis en Irak. Marchand d'armes sans scrupules, il est alors un homme protégé par la CIA, qui ne s'embarrasse pas de scrupules non plus, et Victor Bout devient intouchable. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Victor Bout, le marchand de mort.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
The President of the United States.
Il est entré comme un boxeur rentrerait sur un ring, décidé à en découdre et galvanisé par une foule tout acquise à sa cause. George Bush le savait, ce discours devant l'Amérique tout entière était sans doute le plus important de sa carrière politique. Il lui faudrait à la fois rassurer et contre-attaquer, se comporter en président mais aussi en chef de guerre.
Notre peine s'est transformée en colère et notre colère en détermination. Que nous livrions nos ennemis à la justice ou que nous fassions justice nous-mêmes, justice sera faite.
Justice will be done.
À l'automne 2001, dans les semaines qui suivent les attentats du 11 septembre, le président des États-Unis, George Bush, prend la parole devant le Congrès et déclare la guerre au terrorisme. Quelques semaines plus tard, les Marines foulent le sol d'Afghanistan, pays perdu au milieu des montagnes, à plus de 12 000 km de Washington, et devenu tombeau des femmes. Objectif, traquer les talibans, ces tortionnaires. Et surtout, surtout, arrêter le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, l'homme soupçonné par les Américains d'avoir fomenté les attentats du 11 septembre 2001. Si l'armée des États-Unis dispose à l'époque d'avions suffisamment grands pour transporter ses soldats, leur équipement et tout le matériel, ce n'est pas le cas pour ces nombreux sous-traitants qui accompagnent l'effort de guerre. D'après une enquête menée par des journalistes britanniques, ce sont au moins une trentaine de sociétés américaines, toutes sous contrat avec le Pentagone, qui missionnent les entreprises de Victor Boot pour assurer la logistique aérienne non militaire vers les bases américaines en Afghanistan. Toujours selon cette enquête, au plus fort de l'intervention, Boot facture une dizaine de vols chaque semaine au gouvernement américain et britannique. Parmi ses clients, des entreprises telles que FedEx, en charge du courrier, ou encore Halliburton, société spécialisée dans l'exploration et l'exploitation de gisements pétroliers, et très longtemps dirigée par le vice-président des États-Unis d'alors, Dick Cheney. L'ancien expert des Nations Unies sur les trafics d'armes, Johan Pellman, explique que parmi les généraux du Pentagone, tout savait qui était Boot. Je le cite d'ailleurs. Victor Boot approvisionnait le magasin hors taxe de l'armée américaine en Afghanistan d'abord, en Irak ensuite, et probablement les deux en même temps. Il était un prestataire utile et efficace, personne ne posait donc de questions sur ses autres activités. Benoît Muratiol, responsable de la campagne contre le trafic d'armes pour Amnesty International France, confirme au micro de France Inter.
Il a travaillé avec les États-Unis, même dit-on avec l'ONU, parce que tout d'un coup, quand les États-Unis ont décidé d'aller en Irak, il a fallu transporter tout ce matériel. Et on s'aperçoit très vite que pour la question du transport aérien, il y a des gens qui sont un petit peu incontournables, et il a été une de ces personnes qui a été incontournable pendant un moment.
Mais derrière l'aspect légal des activités de Boot, un jour au service de l'ONU, un autre au service d'un gouvernement occidental, se cachent les pires violations d'embargo sur la vente d'armes dans des pays en pleine guerre civile ou théâtre d'opérations de nettoyage ethnique. C'est le cas en particulier en Afrique. Le Libéria, la Sierra Leone, l'Angola, la République démocratique du Congo ou le Darfour. Là-bas, les seigneurs de guerre, coupables de violations des droits humains, tortures et actes de barbarie, font régner la terreur en se servant dans le gigantesque catalogue d'armes et le stock illimité de Victor Boot. À chaque fois, les avions du marchand d'armes font la navette, chargés en armes donc, et munitions, entre des bases ou dépôts de l'un des pays de l'ancienne URSS et les aérodromes des campagnes du continent africain. Lors de la guerre civile angolaise, Victor Boot, par exemple, fournit les deux camps en même temps. Il approvisionne ainsi en mitraillettes et lance-grenades les indépendantistes de l'UNITA, tout comme il fournit l'armée régulière du gouvernement en place à Luanda. Boot fait ses affaires dans un environnement où règne un flou juridique, justement, et comme l'explique Hugh Griffiths, spécialiste du marché des armes à l'Institut international pour la paix de Stockholm.
Victor Boot transportait des armes, un marché a été créé et il répondait aux besoins de ce marché. Il est un produit de la globalisation. Contrairement aux narcotiques, les armes sont légales jusqu'à ce qu'elles arrivent à une destination soumise à embargo, comme le Darfour par exemple. Donc il est très difficile de dire si elles sont vraiment illicites ou pas, jusqu'au moment où elles se trouvent à un endroit où elles ne sont pas censées être. Au final, il n'y a pas de loi pour empêcher de tels agissements.
Victor Boot, l'ancien officier de l'armée rouge, est également connu pour accepter toutes les formes de paiement. En dollars, en diamants, en or ou autres minerais précieux. Et après l'Afrique, son commerce est en Amérique du Sud, où il fournit les mouvements de guérilla indépendantistes, comme les FARC colombiens. Il trouve aussi des clients en Asie, où il fournit les rebelles du Sri Lanka, comme aux Philippines. Alors que son activité mercantile est responsable indirectement de la mort de milliers de personnes à travers le monde, Booth, désormais affublé du titre de marchand d'armes le plus riche de la planète, vit dans le luxe dispendieux de son immense villa dans la banlieue de Moscou. Il ne se cache pas, sans doute aussi car il se sait protégé par le KGB. Répondant souvent aux demandes d'interview des médias russes, il affirme en effet n'avoir rien à se reprocher.
On a raconté que j'avais d'innombrables identités et autant de passeports. On a dit aussi que je me cachais, alors que je ne me cache pas du tout. Je peux vous dire que je n'ai jamais rien fait dans ma vie qui puisse m'inquiéter ou me pousser à fuir.
En 2006, cela fait des années que les services de renseignement américains et britanniques sont parfaitement au courant du manège de Victor Booth. Et pour cause, la CIA et le MI6, les services secrets britanniques, écoutent toutes ces conversations téléphoniques. Interpol émet même une notice rouge, demandant son arrestation sur la base d'accusations belges de trafic d'armes et de blanchiment d'argent. Mais tant qu'il sert le Pentagone, Booth est, répétons-le, intouchable. Sauf que le ralentissement de l'effort de guerre américain en Irak, quelques années plus tard, marque le début de sa chute.
France Inter.
C'est un grand trafiquant d'armes qui a été arrêté hier en Thaïlande. Le russe Victor Booth est suspecté d'avoir été le pourvoyeur des terroristes des FARC en Colombie, de Charles Taylor au Libéria et des talibans en Afghanistan. Son frère accuse les Américains et veut que Victor Booth soit rapatrié en Russie. Washington pourrait réclamer son extradition et on en sait un peu plus sur les circonstances de son arrestation à Bangkok.
Le 6 mars 2008, Victor Booth est victime d'un piège tendu par des agents de la DEA, l'agence américaine de lutte contre la drogue. Le marchand d'armes russe est venu en Thaïlande pour rencontrer de prétendus clients sud-américains qui voulaient lui acheter des missiles sol-air et des roquettes anti-chars. En réalité, les hommes qui se sont présentés à lui, déguisés en membres des FARC, étaient des policiers américains. Et c'est un paradoxe, quand on sait que ce sont les États-Unis eux-mêmes qui, pendant presque une décennie, ont protégé Booth de toute poursuite et qui aujourd'hui l'arrêtent. Interpellé en Thaïlande, il aurait dû être jugé dans ce pays, seulement voilà. Le département d'État à Washington fait pression et obtient, dans des conditions très troubles, son extradition 2 ans plus tard. Booth arrive alors aux États-Unis par un vol privé. Il est jugé et condamné en 2011, puis une deuxième fois en 2012, à une peine de 25 ans de prison pour blanchiment d'argent et pour commerce aérien sans licence. Rien à voir donc avec le trafic d'armes dont il est accusé. À ce sujet, le tribunal spécial de l'ONU pour les crimes de guerre en Sierra Leone n'arrivera jamais à apporter les preuves de la participation indirecte de Booth au conflit dans ce pays africain. Pendant une décennie, le nom et le visage de Booth disparaissent des médias. Pour les spécialistes du renseignement, il va finir sa vie derrière les barreaux et n'a aucune chance d'être un jour libéré. Et pourtant, au mois de décembre 2022, sur le tarmac de l'aéroport d'Abu Dhabi, c'est donc une scène inimaginable qui est filmée par une caméra de télé de l'agence de presse russe TASS. Au milieu des jets privés, Victor Booth apparaît escorté par un agent armé et il marche d'un avion à l'autre. Il se trouve qu'en coulisses et en plein contexte de guerre en Ukraine, les gouvernements américains et russes se sont mis d'accord pour échanger 2 prisonniers. Moscou obtient le retour de Victor Booth. Washington obtient la libération de la basketteuse Brittney Griner, condamnée à 9 ans de prison pour trafic de drogue, après qu'une cigarette électronique contenant du cannabis thérapeutique a été retrouvé dans ses bagages. C'était lors d'une fouille dans un aéroport de la capitale russe. Quelques jours seulement après sa libération, Victor Booth prend la parole dans les médias russes pour soutenir son président, Vladimir Poutine, et l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, entendait l'agression de l'Ukraine par les Russes.
Je suis fier d'être russe, et notre président c'est Poutine.
Putin. То, что происходит на Западе, Attends. Ce qui se passe en Occident est le suicide d'une civilisation. Ça part dans tous les sens. La drogue, les LGBTQ+.
LGBTQ+.
Imaginez qu'aujourd'hui, dans les écoles américaines, on apprend qu'il y a 72 genres.
Ça y est, 72.
Pas seulement, vous savez, les gays et les personnes normales, mais 72.
À 72.
Moins d'un an plus tard, en septembre 2023, Viktor Bout est élu député à la Douma, la chambre basse du Parlement russe. Il est de nouveau intouchable pour les Occidentaux. Alors, sera-t-il un jour arrêté et jugé pour avoir vendu et transporté des armes qui ont servi à des massacres? Sur ce point, de nombreux journalistes estiment que seule la chute de Vladimir Poutine pourrait permettre d'amener un jour Viktor Bout à répondre enfin de ses crimes devant le tribunal d'une juridiction internationale.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Viktor Bout, le marchand de mort. Notre invité, Romain Mielcarec. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que votre micro est ouvert? Redites-moi bonjour.
Bonjour.
Voilà. Journaliste indépendant, vous êtes spécialisé dans les questions de défense et les relations internationales et vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont le dernier intitulé « Les Moudjiks, la France dans les griffes des espions russes » est paru en 2022. On y reviendra sur ce livre d'ailleurs. Mais d'abord, sait-on ce que devient Viktor Bout aujourd'hui, au moment où nous parlons?
Aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il siège à la Douma. Il a été élu au sein du Parti libéral-démocrate, qui est, contrairement à ce que son nom indique, un parti extrêmement conservateur, qui joue un rôle d'opposition assez fictif à Vladimir Poutine. C'est une région qui est assez excentrée. Il est assez loin de Moscou. Il est à proximité du Tatarstan, en périphérie de la Russie. On le voit assez peu. Il y a eu un premier temps après sa libération où il apparaissait un petit peu dans les médias, comme on l'a vu dans l'extrait de tout à l'heure, pour expliquer à quel point l'Occident est en faillite générale, notamment.
Ça vaut le détour, d'ailleurs.
Notamment morale, et à quel point il est important de faire la guerre en Ukraine. On l'a vu apparaître il y a quelques mois, au mois de mai, si je dis pas de bêtises, avril-mai, à Sébastopol, donc en Crimée, pour l'inauguration d'une superbe exposition de ses œuvres réalisées en prison, parce que pour s'occuper. Exactement, pour s'occuper pendant ces longues journées en prison, il peignait des fruits et des légumes.
Alors, de bout en bout de cette affaire, plein nombre des services secrets russes, est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent que Bout aurait été toujours un agent au service de Moscou, pendant toute sa carrière de marchand et de commerçant?
Pour moi, c'est une erreur de réduire Viktor Bout à un homme d'affaires. Viktor Bout, vous l'avez rapidement dit tout à l'heure, au début de sa carrière, il officie à la GRU, donc le renseignement militaire soviétique à l'époque, puis russe. C'est quelqu'un qui parle de très nombreuses langues et qui, dès les premières années de son expérience militaire, est déployé dans deux pays qui sont importants sur le plan militaire, stratégique et politique pour les soviétiques, à savoir le Mozambique et l'Angola. C'est un endroit où on déploie des gens qui sont quand même assez prometteurs. À la chute de l'Union soviétique, il y a un vrai questionnement pour les services de renseignement, c'est qu'est-ce qu'on devient? Jusque-là, ils sont acteurs de pouvoir, ils sont maîtres du pouvoir dans l'Union soviétique, et dans cette nouvelle Russie des années 90, bah, ils sont plus grand-chose. Une grande partie d'entre eux se reconvertissent dans les affaires, toutes sortes d'affaires, gestion de clubs de foot, agents immobiliers, le pétrole et le gaz, évidemment. Et donc, il y a
d'autres politiques, Poutine.
Alors plus tard, dans les années 90, pas trop. Ouais. Dans les années 90, ce sont les affaires. Et Poutine, dans les années 90, se lance dans les affaires à Saint-Pétersbourg. Et donc parmi les ressources dont les Russes disposent en grande quantité, il y a donc le gaz, le pétrole, mais il y a aussi les armes, beaucoup de stocks d'armes. Et donc c'est l'une des choses qu'ils vont utiliser pour se reconvertir. Pour autant, tous ces gens-là vont rester extrêmement connectés à leur réseau. Vous le disiez, Vladimir Poutine, lorsqu'il arrive au pouvoir dans les années 2000, va immédiatement s'entourer d'anciens des services, des anciens du KGB, qui ensuite ont continué au FSB et au SVR, donc les héritiers du KGB. Et puis dans les réseaux de la GRU, donc côté militaire, eh ben on va aussi s'organiser pour restructurer les affaires et trouver de nouvelles activités. Victor Bout n'a jamais quitté ces réseaux-là. Il a toujours été extrêmement protégé et il a effectivement eu un accès privilégié au stock de l'Union soviétique lorsqu'il a fallu leur trouver une nouvelle vie. Et je pense qu'il faut avoir en tête à quoi sert un service de renseignement. Le but d'un service de renseignement, c'est d'accéder à des endroits qui sont pas évidents d'accès, à des gens qui sont pas évidents à approcher, pour essayer d'obtenir des informations. Ce que Victor Bout va faire de manière multiple, on l'a vu depuis tout à l'heure, auprès de chefs de guerre, auprès de chefs d'État et auprès de réseaux militaires, y compris occidentaux.
Il n'en reste pas moins que, même si son parcours est ouvertement politique, est-ce qu'il est le plus grand marchand d'armes de la planète ? Alors là, d'un point de vue commercial.
Oui, il y a pas trop de doute là-dessus. Le fait est qu'il a, pour différentes raisons, accès à un moment précis de l'histoire, à un stock d'armement qui est totalement inédit. Donc il va pouvoir fournir beaucoup de matériel, beaucoup d'armement. Et ce qui va être assez particulier dans son cas par rapport à d'autres grands trafiquants, c'est que non seulement il a accès à des armes légères, fusils d'assaut, lance-roquettes, mines, etc. Mais surtout, il a accès à des matériels lourds. On a parlé d'hélicoptères. L'affaire pour laquelle il est arrêté par les Américains, on parle quand même de systèmes de défense anti-aérien. Donc, c'est des équipements qui sont extrêmement lourds, extrêmement rares, extrêmement coûteux. Et lui, il a accès à ça, ce qui est particulier. Et deuxième point important dans son entreprise, c'est que surtout, il a accès à des moyens logistiques, ce que n'ont pas toujours la plupart des...
C'est-à-dire les avions, les Antonov.
Exactement. Lui, il a à la fois le stock, les matériels, les produits à vendre. Il a à la fois les capacités logistiques, donc des navires et des avions qui lui permettent de transporter cet armement sans dépendre de tiers. Et puis, il a un troisième atout dans sa manche, c'est qu'il a un soutien étatique. C'est-à-dire qu'à aucun moment, la Russie ne va chercher à nuire à ses affaires, bien au contraire.
Alors, bien sûr, on parle d'armes conventionnelles, hors de question de toucher au nucléaire.
La question ne s'est pas tellement posée en réalité. Il y a eu des inquiétudes, il y a eu des peurs, tout le monde a essayé de contrôler tout ça. Effectivement, au moment de la chute de l'Union soviétique, il y a une question sur que deviennent les armes nucléaires, et notamment les armes qui étaient en Ukraine. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Assez vite, tout le monde s'est rassuré là-dessus. Il y a des questions aussi qui se sont posées sur des armes chimiques, ce genre de choses. C'est quand même pas les choses les plus faciles à vendre, finalement. Et puis surtout, on passe vite des lignes rouges où ça peut tout de suite alerter tout le monde.
Bien sûr.
C'est-à-dire que la limite dans laquelle on flirte, bon, on vend des mines, on vend des hélicoptères, c'est une chose. Quand on rentre dans des armes de destruction massive, là, très vite, y a beaucoup de gens qui s'intéressent à vous.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Romain Mielcarec, ce jeune homme, Victor Bout, commence ses activités à 23 ans. C'est très jeune. Il faut une mise de départ aussi pour se lancer dans un commerce pareil. D'où vient-il ?
Alors ça, on ne sait pas. Ce qu'on sait juste, c'est qu'effectivement, il sort de la guerre où il a fait son service militaire, puis où il a commencé à travailler. C'est aussi, encore une fois, la guerre où un lieu où on rencontre des gens qui ont du pouvoir, qui ont potentiellement de l'argent, et où on trouve vite des financements. À partir du moment où on a accès à quelques avions de transport, on peut très vite se lancer dans une activité qui est rentable. Ça prend quand même ensuite une bonne dizaine d'années à se mettre en place pour qu'il devienne l'homme puissant qu'il est à la fin des années 90, au début des années 2000. Il y a un vrai besoin d'avions de transport. On a parlé tout au long de l'émission. En fait, c'est une ressource, une capacité qui est assez rare. Peu de pays en ont, peu de pays en ont en quantité. Et tout à l'heure, on le disait, il a des Ilyushin, il a des Antonov. En fait, ça, c'est des avions qui, en Union soviétique, ont été construits par centaines, voire par milliers. Donc, il y a de la disponibilité. Et grâce à ça, il se retrouve à pouvoir fournir un service à beaucoup de monde, qui est un service rare, et qui donc est un service qui vaut cher.
Certains lui ont-ils succédé, ou une personne, qui serait russe, par exemple ?
Alors, il y a une grosse partie du parc qui a été un peu perdue de vue. On ne sait pas ce que sont devenus tous les avions. Il y a une partie de ce parc qui était aussi assez fatiguée, assez usée. Donc, il y a aussi des appareils qui ont été démantelés. Ce qu'on visualise assez mal, c'est qu'en fait, son business est tentaculaire. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises cachées derrière des entreprises, cachées derrière des entreprises, avec des partenaires qui sont actionnaires, qui sont de faux propriétaires, etc.
Il n'y a
pas systématiquement Victor Bout derrière le comptoir de l'aéroport pour vous louer l'avion. Et c'est ça qui rend en fait les procédures contre lui extrêmement complexes tout au long de cette histoire, c'est que en fait, il faut pouvoir démontrer devant un tribunal que c'est bien Victor Bout qui est responsable de ce qu'on lui reproche. Des gens qui ont pris le relais à cette échelle-là, il n'y en a pas. Déjà, il y a une bonne partie des stocks qui ont quand même été disséminés à droite et à gauche, donc on a plus d'équivalents. Les équivalents qu'on a pu avoir, en fait, c'est des zones de guerre où il y avait beaucoup d'armes. On pense à la Libye au début des années 2010, mais en fait, ces stocks ont été vite récupérés par des groupes armés de la zone qui s'en sont servis. Sur le côté transport, en fait, derrière, on a eu des entreprises, alors un peu moins opaques, mais toujours dans des zones extrêmement grises, qui ont pris le relais. Il y a encore quelques années, l'opération Barkhane, l'opération française au Sahel, dépendait d'Antonov, donc qui était propriété d'entreprises ukrainiennes, où il y avait de vrais points d'interrogation sur qui est derrière, quelles sont les limites juridiques, légales, éthiques de ce type de service. Et en fait, vu qu'il n'y avait pas d'alternative, les Français ont continué d'avoir recours à ce type de service.
Parlons des clients, justement, parce que vous me parlez des Français, en 1994, notamment, dans le cadre de l'opération militaire au Rwanda. Les militaires français pouvaient-ils vraiment ignorer qui leur fournissait ces avions géants Antonov et que savait-on, ou pas d'ailleurs, de Bout à cette époque?
Je pense que la question ne se pose pas comme ça.
Désolé.
Une chose à laquelle il faut faire extrêmement attention, c'est que, en fait, chacun fait son job. Le job de l'état-major des armées, c'est pas d'aller enquêter sur des prestataires de services internationaux logistiques. Le job de l'état-major des armées, c'est de mener une opération militaire. À ce moment-là, organiser une intervention pour aller lutter contre un génocide en cours. Leur question de savoir si le type derrière les avions paye ses impôts, est homophobe ou raciste, ou s'ils vendent des armes par ailleurs, ce n'est pas leur sujet à eux. C'est le sujet d'autres acteurs qui ont cette responsabilité-là. Et ça, c'est extrêmement important de l'avoir à l'esprit, notamment du côté des Américains. C'est pas le rôle du Pentagone d'aller se poser des questions sur les valeurs morales ou sur le respect du code des impôts d'un fournisseur de prestations logistiques. Par contre, c'est le rôle du FBI.
Ouais.
Et le FBI travaille sur Bout depuis au moins le début des années 2000, donc extrêmement tôt, en lien avec Interpol, qui a été le premier acteur policier à émettre des éléments de recherche à l'attention de Bout. Et puis très vite, la DEA...
Oui, mais pourquoi la DEA qui est spécialisée dans le trafic de drogue, la lutte contre le trafic de drogue?
En fait, les armes, ça rentre dans leur fonction. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la drogue qui est un de leurs grands sujets, mais le trafic d'armes, c'est la DEA. Et effectivement, en Amérique du Sud notamment, il y a un vrai sujet de lutte de pouvoir depuis des décennies, depuis la guerre froide, entre la DEA d'un côté, dont la mission est de lutter contre les trafics de drogue qui sont un fléau pour les États-Unis. Et de l'autre côté, la CIA qui, pendant la guerre froide, soutient des groupes armés contre les États communistes. Mmh. Et parfois, il y a des liens entre les trafiquants de drogue et les groupes armés communistes. Et donc, la CIA et la DEA ont des réseaux, des sources, des agents qui sont en opposition, qui se battent entre eux. Et donc, il y a une vraie lutte entre les deux acteurs. Est-ce que c'est un enjeu pour la CIA de neutraliser Bout? Peut-être pas. Moi, je suis pas certain qu'ils aient un vrai intérêt à le protéger. Je crois pas que les États-Unis aient protégé spécialement Bout. Le Pentagone, c'est pas non plus un enjeu majeur pour eux. C'est un prestataire de service, mais qui est pas non plus fondamental. C'est-à-dire que s'il disparaît, c'est un peu embêtant parce que le courrier arrive moins vite et parce que les livraisons de snacks, on l'a dit, dans les boutiques des bases américaines sont un peu plus longues. C'est embêtant, mais c'est pas gravissime. Le vrai sujet, c'est qu'il faut le smoking gun. Il faut la preuve que Victor Bout est responsable, commet des crimes majeurs qui permettent de l'envoyer en prison pour des décennies. Et c'est là que la DEA met en place cette opération où ils se font passer pour des FARC et où ils vont aller le rencontrer à plusieurs reprises. Ça se passe sur plusieurs mois dans plusieurs pays. Si l'interpellation a lieu en Thaïlande, il y a des rencontres en Europe avec des intermédiaires, avec des collaborateurs de Bout. Et ce qui est important pour les policiers américains, c'est que Victor Bout leur dise une chose précise, qu'il leur dise « Je comprends bien que ces armes vont servir à tuer des Américains. Je comprends bien que ces armes vont servir à tuer des militaires américains et je suis prêt à coopérer parce que les États-Unis sont mon ennemi. » Et donc à partir de là, ils ont des motifs clair pour eux de lancer une procédure judiciaire, de l'arrêter et de l'envoyer en prison. Un aspect important pour revenir sur la question du lien entre Bout et les services de renseignement, c'est que ces faux FARC qui sont en fait des policiers, il leur dit aussi une chose intéressante, il leur demande où sont les radars américains en Colombie. Et ça, c'est une drôle de question pour un marchand d'armes. Parce qu'en fait, lui, il s'en fout de savoir où sont les radars.
C'est une question d'espion, ça.
Par contre, la guerre où à Moscou, eux, ça les intéresse.
Évidemment. Donc la question de savoir pourquoi les Américains, qui sont quand même gavés hein, sur la bête, l'arrêtent après ne se pose pas, vous l'avez expliqué, parce que ce sont des questions qu'on ne se pose pas, que l'armée ne se pose pas. Alors, au sujet de sa biographie et de son parcours de Bout, les informations disponibles ne concordent pas toujours. En 2005, Hollywood a sorti un film intitulé « Lord of War ». Cette adaptation cinéma s'inspire et représente la vie de Victor Bout, donc, durant toutes ces années d'activité, mais je crois savoir que vous jugez ce film inexact et trompeur, c'est ça ?
Le film est excellent. Nicolas Cage est probablement un des artistes les plus talentueux de l'histoire du cinéma américain. J'ai un problème avec ce film, c'est qu'il est écrit à son lancement inspiré de faits réels. Et ça, c'est problématique parce que le film raconte en réalité tout le contraire de ce qu'est Victor Bout. Dans le film, le personnage est un Américain qui effectivement fait du business pour faire du business. On perd de vue les enjeux stratégiques, on perd de vue les enjeux politiques, et surtout on perd de vue que le fonctionnement de l'État russe et le fonctionnement de l'État américain ne sont pas les mêmes. Et s'il peut y avoir dans l'État américain des acteurs extrêmement cyniques, la CIA qu'on a évoqué, il y a aussi une justice qui fait son travail et il y a d'autres agences de police, de renseignement qui font aussi leur travail, ce qui n'est pas le cas en Russie. Et donc je trouve qu'on on biaise totalement de la réalité du sujet du trafic d'armes, qui est quand même un sujet fondamentalement politique. Justement, contrairement à ce qui est dit dans le film, on ne vend pas des armes comme on vend des aspirateurs. On vend des armes pour faire la guerre, et la guerre, c'est de la politique.
Donc, question sur votre dernier livre, Les Moudjiks, la France dans les griffes des espions russes. Qui sont ces Moudjiks ?
Alors les Moudjiks, ce que j'appelle les Moudjiks, ce sont justement les officiers de la GRU qui travaillent de manière assez brutale sur le territoire européen et en France, où moi j'ai pu en croiser quelques-uns. Les Moudjiks, dans l'histoire de l'Empire russe, c'est le peuple russe, et ce sont des gens qui sont brutaux, vulgaires, mais qu'on respecte, c'est le bonhomme. Et j'ai utilisé cette expression pour décrire les officiers de la GRU, justement en opposition à ceux du KGB, qu'on a décrit dans les années 90 comme les nouveaux boyards, la nouvelle noblesse. Et moi, je voulais utiliser cette expression populaire des bonhommes pour décrire les militaires qui restent extrêmement violents et agressifs dans leur manière de fonctionner.
Bien, eh bien, j'invite les auditeurs et les auditrices de France Inter à lire votre livre, Romain Mialcarec. Merci infiniment.
Merci.
Au revoir.
À vous.
Et Affaires Sensibles aujourd'hui, Victor Bout, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Thomas Allard.